pas de trêve jusqu'au retrait de la réforme des retraites, annoncé l'intersyndicale qui a appelé à une nouvelle journée de grève et de manifestation ce mardi 17 décembre. Nous étions pour ce nouveau rendez-vous de mobilisation dans les rues de Lille.
Ben moi c'est Chloé, je suis la responsable fédérale de l'UNL Pas-de-Calais et je suis en terminale à Guimolé.
Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça se passe une journée de mobilisation comme ça chez les lycéens, lycéennes à Arras?
Alors à Arras ça bouge pas trop. Moi c'était à Lille que j'étais la semaine dernière. À Arras c'est un peu compliqué parce que les lycéens sont pas vraiment concernés et comme on n'a pas trop de profs grévistes, bah, quand les profs sont pas réellement avec les lycéens, bah, les lycéens se disent que si bon les profs se bougent pas, pourquoi nous on devrait se bouger. Donc à Arras c'est vrai que c'est pas trop mobilisé, l'année dernière ça l'était un peu plus. Par contre à Lille ça a énormément bougé, la semaine dernière on a bloqué 13 lycées. Mais ça a bien bougé et en gros la journée type c'est on arrive à 6h30 sur les lycées, on essaye de répartir nos forces, en fait on va au lycée le plus proche de chez nous. On arrive à 6h30 sur les lycées, qu'on met en place les barricades, les poubelles, les machins, etc. Ensuite on essaye de tenir le blocus le plus longtemps possible, mais c'est vrai que ça tient pas beaucoup à cause du dispositif policier qui est énorme, qui fait que très souvent vers 8h30 on était gazés et délogés. Et dans ces cas-là, en fait, à chaque fois, ce qu'on faisait, c'est qu'on se retrouvait tous à Pasteur. Pasteur, c'était un peu le lycée de référence de Lille, en tout cas pour la semaine dernière. Et donc, en fait, dès qu'on était délogés sur un lycée, qu'importe lequel, on se rejoignait tous à Pasteur. Et c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des cortèges de 800 lycéens à Pasteur qui partaient ensuite en manifestation. Donc voilà, une fois que la manif est finie, environ vers 11h30 midi, on va manger à la bourse du travail où on fait une AG. Et ensuite, en fonction de si c'était le jour de grève nationale ou pas, bah du coup, si c'est pas jour de grève nationale, on traîne un peu dans la journée, on fait des plus longues AG, disons. Et si c'était les jours de grève nationale, bah du coup, on faisait une AG vite fait le midi en mangeant et on repartait ensuite pour aller à la manifestation nationale, du coup, enfin celle de la grève quoi. Et ensuite le soir on est en AG interpro, donc là avec tous les travailleurs et travailleuses. Et bon là on a un peu moins de lycéens du coup qui viennent parce que bah, ils se sentent un peu moins concernés quand il y a, enfin ils préfèrent venir, il y en a certains qui préfèrent venir aux AG lycéennes parce qu'ils trouvent que c'est mieux d'être entre nous. Bon ça c'est pas mon avis mais ça dépend quoi. Mais du coup ouais, après on est en AG interpro et ça finit vers 22h environ. Et ensuite, bah du coup, on recommence le lendemain.
Qu'est-ce qui se décide en AG? C'est plutôt sur les questions de contenu par rapport aux réformes que propose le gouvernement ou c'est plutôt des organisations de lutte?
C'est les deux. C'est à la fois des organisations, à la fois aussi de la discussion sur les tracts. On a écrit plusieurs tracts, donc on se concerte. Mais on prévoit aussi comment on va faire les blocus. Par exemple, vendredi, il y avait le bac blanc à Fédherbe. Du coup, on s'est mis d'accord pour tous se rejoindre à Fédherbe pour annuler leur bac blanc, parce qu'on trouve pas ça normal qu'il y ait des épreuves pendant des mouvements sociaux. Et malheureusement, ça n'a pas marché. On n'a pas réussi à annuler le bac blanc, mais on n'a pas réussi à reporter le bac blanc à Fédherbe. Par contre, on a réussi dans tous les autres lycées.
Et alors, c'est quoi l'atmosphère dans les lycées par rapport à ce qui se passe actuellement? Ça prend pas trop, les élèves se sentent concernés ou pas?
Ouais, là ça prend plutôt pas mal. De ce que j'ai vu, les élèves en tout cas, pas forcément tous se sentaient concernés, mais étaient tous informés. Comparé à l'année dernière, pendant les blocus contre Parcoursup et la réforme du bac, comme c'était que lycéens et étudiants, et qu'il n'y avait pas le national derrière, il n'y avait pas tous les travailleurs derrière, ben ils voyaient, si leur lycée bloquait pas, ils n'étaient pas au courant. Tandis que là, le fait qu'il y ait une grosse grève nationale derrière, ça fait que même s'ils ne se sont pas concernés tous et toutes, ils sont au minimum informés. Et ça joue beaucoup le fait qu'ils soient tous et toutes informés sur la réforme des retraites, etc. Parce que bah, ça blinde sur les infos à la télé, partout. Enfin, on n'entend que ça, la grève. Donc ça, c'est déjà une bonne chose qu'ils soient informés. Et du coup, ça permet évidemment plus de mobilisation, puisque quand on sait, on a plus moyen à se révolter contre quelque chose que quand on n'en est pas en courant. Par contre, la répression policière qu'on a vécue la semaine dernière était vraiment très 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 forte. Beaucoup de blessés, beaucoup de gardes à vue, dans des conditions infâmes. Hein. Ils dormaient dans l'urine et dans les excréments toute la nuit au commissariat de police, même le sol, parce que les geôles sont pleines. Donc c'est un peu moite-moite. Il y en a où ça les a vraiment redonné de la force, et ça leur a redonné l'envie de continuer à se battre. Et d'autres où ils ont tellement pris cher par la police, on a eu une fille qui a été défigurée, enfin il y a eu beaucoup de choses qui fait que certains aussi ont tellement peur que, qu'ils ne viennent plus quoi. Ça c'est clairement le but de la police en fait, c'est de réprimer de manière à ce que les lycéens et les lycéennes ont peur. Et ils ne viennent plus en manifestation, malheureusement ça ne marche pas. Et moi, la plupart des gens qui ont fait de la gaffe cette semaine ou qui ont été blessés, je les ai vus le lendemain en blocus et en manif. Donc preuve que leur dispositif de répression ne fonctionne pas. Mais voilà, là je les vois bien déterminés, les lycéens et les lycéennes. Là, je pense qu'ils en ont marre aussi un peu qu'on nous méprise et qu'on dise que notre voix n'a pas d'intérêt et pas d'impact et qu'on n'a rien à dire. Et qu'on ne sait rien parce qu'on n'a pas l'expérience de la vie, alors que malheureusement la précarité et les réformes, on les subit déjà. Donc en fait, on peut déjà être concerné et déjà se révolter contre ce qui se passe, puisqu'on subit nous aussi des réformes précarisantes du gouvernement.
Est-ce que ça ne manque pas un peu d'une solidarité intergénérationnelle, j'entends par là les parents, que des enfants se fassent maltraiter par la police, voire emmener au poste de police. Est-ce qu'il y a des parents qui vous soutiennent dans ces luttes-là ?
Ouais, on a énormément les parents d'élèves de la FCPE derrière nous. Après, on a aussi des parents. Enfin, moi, j'ai parlé avec des parents lambda hein, qui n'étaient pas du tout à la FCPE et qui nous disaient mais ça nous choque en fait. C'est nos enfants là. Ça pourrait être nos enfants qui finissent en garde à vue, qui sont maltraités ça les choque et du coup ils sont quand même derrière nous. Après, franchement, c'est qui tout double. Hein. Il y a aussi beaucoup de parents qui sont là à engueuler leurs enfants et à leur dire que c'est de leur faute qu'ils avaient qu'à pas venir en manifestation. Donc c'est un peu qui tout double, ouais, ça dépend.
Moi c'est Jérémy Paoloni, j'étais là quand Baptiste s'est fait interpeller Plage Richebay en marge de la manifestation à Lille.
Moi c'est Quentin Saison, j'ai été interpellé devant le commissariat alors qu'on protestait contre l'arrestation de Baptiste. Et voilà, je suis étudiant pareil à l'ESJ.
Est-ce que vous pouvez me décrire l'action qui s'est passée là ? Quel est le sens ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Bah là actuellement on est entre 50 et 100 élèves de l'Académie de l'ESJ qui nous sommes réunis en tête de cortège pendant quelques minutes de la manifestation d'aujourd'hui. L'esprit, c'est de rappeler que le droit à l'information, c'est un droit que chaque citoyen a à sa disposition et que voilà, il est important que chaque citoyen puisse être informé correctement. C'est un choix qui est une possibilité qui est nécessaire en démocratie, puisque sans ça, on ne peut pas prendre de décision éclairée. Et que donc, pour que cette information soit possible et que tous les citoyens puissent être informés correctement, il faut que les journalistes puissent eux-mêmes travailler correctement. Et donc que finalement l'information c'est quelque chose de démocratiquement nécessaire et que pouvoir travailler correctement c'est un besoin démocratique.
Et là vous deux, vous avez l'impression que ce droit à l'information il est mis en danger ?
Aujourd'hui oui, c'est un droit qui est clairement mis en danger. On note de plus en plus de violences à l'égard des journalistes qui sont pourtant parfois habitués à couvrir des événements assez importants. On a des reporters de guerre qui ont été récemment empêchés de travailler, qui ont été blessés dans des manifestations parisiennes, ce qui est très grave. Ils sont habitués à aller en Syrie, en Irak, et là ils se retrouvent blessés à Paris. Il y a également des reporters qui sont régulièrement attaqués à Paris, à Lille, pardon. Récemment, il y a eu un journaliste de la Voix du Nord qui a été pris à partie par le commissaire de police de Lille, ce qui est d'autant plus grave quand il s'agit d'un commissaire. Et voilà, il y a le collectif REC, Reporters en colère, qui fait un listing assez précis de beaucoup d'interpellations de journalistes et de beaucoup d'atteintes à la liberté de la presse. Et on se rend compte que oui, à chaque manifestation, il y a des problèmes à ce niveau-là.
Il y a également un projet de loi qui précise les modalités dans lesquelles on pourrait filmer la police lors des manifestations.
Ce projet de loi a été abrogé, mais rien qu'en fait de le proposer, en fait, c'est déjà dans l'idée, c'est déjà une atteinte à la liberté de la presse, parce que normalement, c'est impensable de proposer quelque chose comme ça. C'est une remise en cause de l'état de droit, où les citoyens ont le droit, de contredire l'état, en fait. Et là, du coup, c'est une dérive dans un état policier, en fait, parce que du coup, la police aurait le droit de dire qui est capable ou pas en manifestation de donner de l'information. Et en fait, c'est une atteinte à la pluralité de la presse. Peu importe les partis, qu'on soit pour ou contre, en fait, toutes les opinions ont le droit d'être représentées et tous les journaux ont le droit d'aller en manifestation pour couvrir ces événements, en fait.
Et donc, toi, tu es ?
Baptiste Hermand.
Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce qui s'est passé lors de la dernière manifestation ?
C'était le 12, je crois. Donc, c'était en fin de manifestation. J'ai été interpellé parce que je prenais des photos d'une arrestation qui était en cours. Une arrestation assez musclée et donc j'ai senti un gros coup de bouclier derrière moi et on m'a mis à terre, on m'a traîné, on m'a mis les menottes et on m'a emmené au poste. Donc parce que je prenais des photos, on m'avait déjà dit plusieurs fois d'arrêter, enfin on m'avait mis la main devant la caméra, un policier m'avait mis la main devant la caméra et j'avais continué à prendre des photos et ça leur a pas plu apparemment et voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé après ?
Alors après, déjà entre l'interpellation et le fourgon, on m'a traité beaucoup de fois de fils de pute, les policiers. Ils m'ont dit si tu bouges je te pète le bras, des choses comme ça. Ensuite on allait dans le camion, on allait au commissariat. On était dans une première cellule avec les autres manifestants. Donc ça nous a permis de nous soutenir mutuellement et de beaucoup parler. Et c'était très sympathique. Donc c'était vraiment... moi je me souviens pas avoir être triste ou quoi que ce soit. Donc je me souviens avoir été beaucoup soutenu aussi par mes camarades, parce que je voyais sur mon téléphone qu'il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place dehors, devant le commissariat, il y avait une mobilisation, etc. Et ça me faisait vraiment, enfin ça me rassurait vraiment beaucoup. Et donc je me sentais soutenu et ça m'a permis de tenir aussi moralement. Et voilà, j'ai passé une nuit en garde à vue, je suis sorti au bout de 19h à 11h le matin.
Et les suites judiciaires, il y en a eu ?
Apparemment, c'est toujours en cours. Donc pour Quentin, lui, il a eu un rappel à la loi, donc c'est bon. Mais pour moi, apparemment, il y a toujours une procédure en cours. Je crois que le procureur attend que l'affaire se tasse un peu pour récolter le maximum de preuves en photo et vidéo pour tirer une conclusion sur l'affaire. Voilà, donc c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai refusé de signer le procès-verbal sur lequel il n'y avait rien, vu que j'avais décidé de ne pas parler. Et voilà, donc on m'a dit qu'il y aurait peut-être une suite si je signais pas, mais bon, voilà, on verra.
Mais qui est accusé ? Les policiers ou toi ?
Alors ça c'est une bonne question, mais on verra ça plus tard, parce que on me conseille de porter plainte, beaucoup de gens me conseillent de porter plainte, mais je sais pas, je me dis que ça vaut peut-être pas le coup. Après ça sera sûrement une plainte en plus parmi toutes les plaintes qu'il y aura, mais je sais pas si ça aboutira quelque part, donc je réfléchis encore, mais je vais peut-être porter plainte, on verra, je sais pas.
Parce que prendre une photo, c'est pas un chef d'accusation. Ils peuvent rien retenir contre toi.
C'est mon devoir. En tant que journaliste, en tant que futur journaliste, c'est mon devoir d'informer, de montrer ce qui se passe en manifestation. Donc en soi, la manifestation en elle-même, mais aussi les violences policières et ce qui se passe à côté de la manifestation. Et donc ça, c'est de mon devoir de montrer ce qui se passe. Et donc ça m'empêchera pas de continuer, etc. Parce que en soi, prendre des photos, c'est pas un délit. Informer n'est pas un délit. On l'a vu partout sur Twitter en ce moment. Informer n'est pas un délit, bien sûr. Et je vais continuer de le prouver en me rendant encore aux manifestations, en couvrant encore les manifs.
Moi, c'est Thierry Lacheret. Je suis délégué syndical CGT à Enedis.
On sent aujourd'hui une grosse mobilisation des électriciens et gaziers. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi ?
La colère des électriciens et gaziers, c'est la même colère que celle des Français en règle générale. C'est la même que celle des pompiers, que celle des métallos, que celle des routiers qui est aujourd'hui dans la rue et qu'on peut observer. Elle se traduit par une mobilisation forte dans la manif. Elle se traduit aussi par des coupures uniquement pour l'instant sur les feux de signalisation faire voir qu'on a la main sur l'outil. Puis là, voilà, les copains ils sont réunis autour d'un coffret et ils opèrent à la coupure des feux de signalisation.
Cette colère, elle est liée à la réforme des retraites ou est-ce que c'est plus ancien ?
La question de la réforme des retraites, elle vient cristalliser le mal-être et le mécontentement qui sont dans la société depuis des années. Toujours travailler plus pour avoir moins, enfin l'inverse des promesses de ce qu'on entend par les dirigeants politiques de droite et de gauche, enfin des libéraux. Je ne vais pas mettre tous ceux de gauche dans le même panier, bien évidemment. Mais aujourd'hui, la question des retraites, elle vient cristalliser tout le mécontentement. Et les électriciens et gaziers, ils font partie des gens qui sont pas contents, quoi. Donc ils sont dans la rue, ils l'expriment à leur manière.
J'essaie d'interviewer des gens là dans le cortège chez les électriciens gaziers. Il y a un droit de réserve dans la profession ?
Ah non, mais c'est compliqué. Moi je suis délégué syndical, donc j'ai une parole qui est libre, j'ai l'habitude de discuter. Après, les électriciens gaziers, il y en a, ils sont... je veux dire, c'est des gilets jaunes, ils commencent à compter à partir du 10 du mois, et c'est pas des camarades, c'est pas des salariés qui ont l'habitude de parler devant un micro, et c'est pas vraiment un droit de réserve, mais c'est... ils sont aussi pudiques parce que c'est compliqué de parler de soi, c'est compliqué de parler de ses collègues, et c'est compliqué aussi de mettre des mots sur la colère qu'on peut avoir, quoi.
Notamment chez EDF, les travailleuses, travailleurs sont plutôt maltraités dans l'opinion publique. Notamment actuellement, quand on parle d'équité, on pense aussi à ceux qui auraient ce qu'on appelle des privilèges. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus ?
Ah ouais, ben on est complètement à l'aise pour parler des privilèges entre guillemets. La question des départs en retraite pour ceux qui sont partis dans le sud-ouest de la France remonter les réseaux, on sait qu'ils vont travailler quasiment nuit et jour pour remonter au plus vite les réseaux. C'est pas le cas de tout le monde et c'est ce qui fait qu'on a des particularités dans nos statuts qui nous permettent de partir plus tôt en inactivité de service. Ben voilà, après la question des privilèges, je sais pas si elle se pose comme ça. Je pense que les vrais privilégiés, ce sont les 10% les plus riches qui payent pas leurs impôts, qui payent pas. Enfin voilà, c'est ceux qui ont des yachts, c'est ceux qui ont 15 ou 20 baraques, qui ont des hôtels particuliers. C'est eux les vrais privilégiés. Je pense pas que ce soit ni les cheminots, ni les infirmières, ni les électriciens et gaziers les privilégiés là-dedans.
Moi, je m'appelle Marion Leleu. Alors, je suis ATSEM maintenant. J'étais assistante maternelle avant. C'était complètement galère déjà pour trouver des contrats et avoir une paye super sympa. Là maintenant on gagne 1000 euros pour 34 heures semaine. Je me plains pas de mon travail, j'adore mon travail, j'adore mon entreprise. Mais au jour d'aujourd'hui, faut que ça s'arrête vraiment. Parce que 1000 euros, c'est pas possible. J'ai 3 enfants, on est 5 à la maison, c'est complètement difficile.
Bah, est-ce que tu peux repréciser un petit peu en quoi consiste ton travail et qu'est-ce qui fait que la situation se dégrade en fait en termes d'emploi pour les gens qui exercent ce métier-là?
Bah, on garde des enfants, donc on s'occupe toute la journée de faire des activités manuelles, de leur donner à manger, de les changer, de les nourrir, voilà, et on a les responsabilités surtout. Donc une des responsabilités à ce prix-là, c'est très très compliqué, quoi. Alors moi, je suis pas payée en fait, je suis pas dans le public, enfin je suis payée mais je suis pas dans le public, je suis dans le privé. Au jour d'aujourd'hui, je suis toute seule à manifester pour mon école. Je manifeste parce que voilà, 1000 euros par mois pour 34 heures semaine. Oui, on a les vacances scolaires, mais 1000 euros, non, je suis désolée. Il arrive un moment où il faut s'arrêter, quoi. Parce qu'on a plus de 30 enfants à la journée. On a la cantine à s'occuper, la garderie à s'occuper. Donc ça nous fait des grosses journées. Je me lève à 5h30 du matin. Je rentre chez moi, il est 18h30. J'ai mes 3 enfants qui vont à la garderie et à la cantine. Donc ça fait déjà une sacrée somme à dépenser. Moi, je prends le train tous les jours pour me dire je vais travailler pour 1000 euros. Après, je le fais parce que j'adore mon travail, hein, attention. Hein. Mais c'est pas normal.
Alexandre Chantry, du coup, coordinateur de Résistance Populaire.
Est-ce que tu peux me parler un peu de la création de ce parti politique à la suite de la mobilisation des Gilets jaunes?
Ouais, bah en fait, on a commencé à y réfléchir fin juin avec pas mal de camarades Gilets jaunes. Et puis... ça a mûri tout cet été pour sortir au final le parti début septembre. Et depuis, on fait des réunions thématiques, on construit le programme avec les gens qui viennent aux réunions. Et donc là, le programme est prêt. Donc on doit se pencher cette semaine sur les questions du municipal et décider ce qu'on fait en fait.
La ligne directrice du programme, c'est quoi?
Ça va être surtout la ligne en fait de trouver un autre monde que le système capitaliste. Donc passer par exemple l'eau, l'électricité, les transports en commun en régie publique et puis en délégation de services publics. Passer également le logement en régie publique parce qu'on a aujourd'hui des logements HLM, notamment chez LMH et chez Villogia, qui sont dans des états de délabrement assez dégueulasses en fait, simplement. Donc nous, l'objectif, c'est qu'on puisse remettre la main dessus et que la mairie redevienne un lieu politique et pas juste une administration publique, quoi. L'un des axes aussi de financement, c'est la remise en place de la taxe professionnelle pour les grosses entreprises, donc les entreprises de plus de 50 salariés, dont par exemple le Crédit du Nord, par exemple le Crédit Agricole, ils ont leur siège ici sur la métropole lilloise. Il faut savoir que lorsque l'État a supprimé la taxe professionnelle, c'est 48% de moins de dotation pour les municipalités. Donc on demande aux mairies de faire mieux avec moins bien. Donc nous, on voudrait retrouver un petit peu d'indépendance vis-à-vis de l'État pour la mairie. Donc voilà.
Les Gilets jaunes, ça avait initié quelque chose qui est la relocalisation du politique en prenant les ronds-points. Ça s'inscrit dans le même ordre d'idée que de vouloir faire quelque chose dans une commune.
Ouais, c'est complètement ça. Nous, on répond vachement du municipalisme. Après, tu vois, on s'appelle Résistance Populaire, RP, c'est aussi pour rond-point. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé ça. Nous, l'objectif, c'est que voilà, chacun et tout à chacun est capable de faire de la politique, de se réinvestir. On veut décloisonner ce truc-là. Il n'y a pas besoin de formation spécifique pour faire de la politique, juste de la formation interne et populaire entre nous, ça suffit amplement. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est de démystifier le politique et que ce ne soit plus un métier, en fait, que ce soit vraiment un engagement. Nous, on répond plus quand même du centralisme démocratique. Mais dans le sens aussi où aujourd'hui, par exemple, dans notre structure, il n'y a pas de président, on est un bureau collégial. Donc on est tous co-présidents dans la structure. Après, on est très proche de l'autogestion. Par exemple, nous, sur les quartiers d'Oisem, de Moulins, on pense qu'un conseil de quartier, c'est complètement déconnant. Il faut des assemblées générales de quartier. où tout un chacun peut aller participer à l'élaboration des budgets, des choix de la ville, etc.
J'imagine que ça n'a pas forcément fait l'unanimité au sein des différents courants de gilets jaunes qu'il y avait à Lille. Comment ça s'est passé ?
Bah, c'est sûr que les courants plutôt à droite, ils n'ont pas trop apprécié. Bon, voilà, nous, on a clairement affiché la couleur dès le départ. Hein. Nous, on est ce qu'on pourrait appeler de gauche. Moi, j'aime pas trop le terme extrême-gauche parce que je pense que lorsqu'on est marxiste, anticapitaliste ou proche des idées de Bakounine, etc., on est plutôt la vraie gauche pour moi. Et ouais, c'est sûr que la ligne plutôt à droite du mouvement gilets jaunes est pas trop fan, mais la majorité de nos membres sont des gilets jaunes, en fait. Donc, on a aussi d'anciens militants par exemple, du Parti communiste, de l'AFI, du NPA, qui sont dans nos groupes de travail, qui seront sur notre liste. Mais ouais, ça a été accueilli. Ça dépend des endroits, en fait. Il y a des gens qui sont pas du tout d'accord, il y a d'autres gens qui nous encouragent à continuer. Donc voilà.
Parce que ça pose quand même la question de la réforme du système de l'intérieur, ce qui en général est un point de rupture entre les militants.
Moi, à titre personnel, par exemple, ça fait 14 ans que je fais des manies, je fais des blocages, je fais des luttes. On a tout essayé dans la rue, on se dit. Après, moi, je reviens à la phrase de Jaurès qui dit voilà, un mouvement social, s'il n'est pas appuyé politiquement, et inversement, un mouvement politique, s'il n'a pas un pied concret dans la lutte sociale, bah ça peut pas forcément marcher. Faire tomber le capitalisme, c'est à la fois dans la rue et aussi dans les institutions, je pense. Et justement, si on déserte les institutions aux grands bourgeois, parce que c'est ça aujourd'hui l'Assemblée nationale, il n'y a que des bourgeois dedans, bah c'est logique en fait qu'il y ait une politique qui soit appliquée, qui soit pour la bourgeoisie. Donc nous, on se dit mettre un peu de prolo là-dedans, ça pourrait pas faire de mal, quoi.
Bonjour, je suis Arnaud, je suis un peu malade, mais je suis gilet jaune et je lâche rien.
Alors est-ce que tu peux présenter le groupe Gilet jaune constituant ?
On communique pas en tant que gilet jaune constituant, nous on parle qu'en notre propre nom pour l'instant, c'est comme ça. Ce que j'essaie de faire passer ici avec mes amis, c'est l'idée que cette dette qui est en train d'imposer l'austérité, et c'est ce pourquoi on vend les aéroports comme Charles de Gaulle, ce pourquoi on va trouver un système de retraite pour que les gens travaillent plus, éventuellement pouvoir même spéculer avec leur capitalisation à point. Tout ça, c'est parce que c'est un système financier international qui vit de spéculation et qui ne fait pas vivre l'économie réelle, ce qui fait qu'on ne peut pas rembourser les emprunts pour lesquels on fait. C'est pour ça que la dette est odieuse, parce qu'elle n'est pas remboursable, elle est malveillante. Et ce qui fait qu'on ne peut pas garantir un système de retraite pour nos aïeux, parce que comme il n'y a pas la création monétaire, il n'y a pas le plein emploi, et comme il n'y a pas le plein emploi, on n'a pas d'argent pour payer les retraites. Donc il faut reprendre le contrôle de la création monétaire et faire en sorte que les médias, comme vous, des journalistes indépendants, puissent davantage exister, quoi.
Alors est-ce que ça ne s'apparente pas à une solution miracle, un peu comme d'autres diraient sortir de l'Union européenne et tout serait réglé ?
Tout à fait, sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN, ça va ensemble, mais après il faut annuler la dette, ce que disent pas forcément les gens qui parlent de sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Il faut annuler, au moins faire un audit sur cette dette pour savoir quelle est la partie légitime et quelle est la part éventuellement illégitime, qui est environ à peu près deux tiers a priori, parce qu'aujourd'hui c'est 40 milliards d'euros par an, c'est le premier poste de dépense de l'État, c'est l'équivalent de deux fois le poste de dépense pour les hôpitaux, c'est l'équivalent du poste de dépense pour l'éducation nationale. Donc en fait, si on pouvait se libérer de cette dette d'au moins deux tiers avec un vrai audit citoyen sur la dette, on pourrait financer déjà beaucoup plus de choses et renflouer les hôpitaux, les services publics, les transports comme on a vraiment besoin, quoi. Mais le vrai enjeu derrière ça, c'est de reprendre le contrôle de la création monétaire pour que ce ne soient plus les usuriers, les banques privées qui contrôlent ça, mais la Banque de France et la Banque des peuples, en fait, que chaque peuple puisse avoir sa propre souveraineté sur sa création monétaire. Je pense à ça pour la France parce qu'on s'est fait voler notre création monétaire en 73, d'abord par les financiers privés, puis après en 2008 avec le 2005 avec le référendum de Lisbonne. Mais la France maintient une quinzaine de pays africains sous l'égide du franc CFA, qui en fait est le même système. C'est un système de colonisation financière pour empêcher les peuples de se développer. Il faut faire péter la chape de plomb et retrouver la création monétaire pour faire justement pouvoir décider de cette création monétaire en fonction de projets qu'on peut avoir. Et des projets, franchement, pour le développement de la France, de l'Europe, de l'Afrique, des projets, c'est pas ça qui manque, quoi. Il faut juste faire sauter l'oligarchie financière.
Est-ce qu'il y a un plan pour faire péter cette chape de plomb, pour faire sauter cette oligarchie financière ?
C'est ça nécessite une vision politique. C'est pas une somme de petites volontés individuelles qui vont pouvoir Là, il faut avoir une vision d'ensemble, au moins au niveau national, pour dire que la création monétaire, c'est l'instrument du peuple, pour le peuple et par le peuple, et pas des financiers. Les stratégies, c'est de faire passer ces mots d'ordre auprès des syndicats, auprès des gilets jaunes, auprès des citoyens, pour que même, en fait, comprennent que c'est pas en négociant quelques miettes vraiment qu'on retrouvera vraiment la satisfaction, les jours heureux comme on avait à la Libération, mais c'est vraiment comme on avait à la Libération justement de reprendre cette création monétaire. Parce qu'à la Libération, on avait dit stop. Pourquoi ? Justement parce qu'avant la guerre, il y avait eu la crise de 1923-1929 aux États-Unis et en Allemagne, et que ça a mené au fascisme en Allemagne et à des tentatives de coup d'État de fascistes financiers aux États-Unis pour renverser Roosevelt. Franklin Roosevelt, qui a séparé les banques de spéculation, les banques de crédit dépôt. Donc on sait qu'en fait, derrière tout ça, c'est le fascisme financier en fait, qui essaie de revenir. Et nous, on le combat en disant que si on fait le travail d'audit sur la dette et de séparer toute cette gabegie financière de l'économie réelle, on aura nos 30 glorieuses sans passer par la guerre. Il n'y a pas besoin de guerre en fait, pour partir de l'avant et faire du développement. Il faut juste avoir des idées en fait, et la création monétaire.
Est-ce que tu peux me parler des constituants ?
Les gilets jaunes constituants, donc là vous avez le tract. Ils basent leur travail sur quatre piliers. La fin de la dette odieuse et illégitime, la création monétaire dont j'ai parlé tout à l'heure, l'éclatement de la sphère oligarchie médiatique, puisqu'une quinzaine de milliardaires détiennent l'ensemble pratiquement des médias français, et le droit du peuple à se constituer et à décider lui-même des lois qui vont retrouver en fait la souveraineté.
Ce reportage a été réalisé le mardi 17 décembre dans les rues de Lille,